Bien, bonjour tout le monde. Déjà, merci à nos auteurs, merci à vous aussi d'être venus les accueillir à Morges. Yann Manou, qui nous vient de longue route de Mongolie, mais pas en fiction en tout cas. À ses côtés, Fabrice Bourlan, qui lui nous transporte dans le temps. Par sa passion et de la science-fiction et du fantastique en général et de la littérature policière avec son, j'allais dire un maître à penser, mais c'est peut-être un peu grand, Conan Doyle et Sherlock. Et puis enfin, Sonia Delzongle, qui justement nous donne un premier polar chez de Noël, mais qui en avait écrit précédemment, je crois. Alors, vous êtes les trois rassemblés. Ce sera ma première question, peut-être. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le polar a pris une forme tellement multiple qu'on ne peut plus vraiment parler d'une étiquette polar? Vos livres sont aussi différents les uns des autres, même s'ils sont chapeautés par peut-être une même volonté ludique de voyager, que ce soit dans le temps, dans l'espace.
Qui répond? Bon, je m'y mets alors. Ouais, en fait, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que moi, je débarque dans le polar de façon un peu accidentelle, et donc j'ai pas de référence dedans. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que dans roman policier, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est le mot roman. C'est-à-dire que moi, je fais du roman. J'essaie de construire des histoires romanesques avec une intrigue. C'est-à-dire que j'essaie de mettre mon écriture au service d'une histoire. C'est ça pour moi la définition du roman, et pas d'écrire pour écrire. Après, c'est vrai que quand on arrive dans un monde qui est assez identifiable comme le polar en général, et quand on débarque un peu novice comme moi, on se rend compte que quelquefois on fait des différences. Les gens parlent de roman noir, d'autres parlent de polar, qui n'est pas la même chose que le thriller, etc. J'avoue que je suis assez peu sensible à cette remarque-là. Et je pense que si on prend par exemple l'exemple de Pierre Lemaitre, il a le Goncourt avec un bouquin Au revoir là-haut. Pourquoi ce bouquin-là, ça serait de la blanche, entre guillemets, de la littérature, et pourquoi ces bouquins précédents sont du polar? Il y a une même enquête dans son dernier bouquin qui a le Goncourt en blanche. Donc je pense qu'il y a, avant tout, il y a des histoires, d'accord? Il y a des intrigues, et certaines intrigues sont articulées autour de quelque chose qui a plus ou moins un écho policier. C'est-à-dire, en général, un mort, une enquête, et que ça définit un genre, mais c'est vrai que les frontières, pour moi, sont très, très souples. J'ai pas l'impression d'écrire un polar, j'ai l'impression d'écrire un roman, encore une fois.
Là, je vais juste, quand même, c'est vrai que je vous ai pas tellement présenté, parce que votre histoire est assez incroyable, quand même. Vous avez publié à un âge, j'allais pas dire vénérable, mais...
Ouais, on peut presque le dire.
Vous êtes venu, pour le dire élégamment, sur le tard à la littérature, et ça fait tout de suite un joli succès, en tout cas de librairie. C'était très vite connu. D'abord, vous demandez comment et pourquoi cette forme policière. Est-ce qu'elle est plus accessible justement que de se lancer dans le roman pur et simple? Elle fait moins peur, peut-être.
Je vais essayer de faire très court pour raconter cette histoire que maintenant on commence à connaître. Je viens à l'écriture par un pari. Je fais le pari avec ma fille d'écrire deux bouquins par an dans un style différent, avec un pseudo différent. Et je me fais un programme. Et dans mon programme, il y avait la première année un essai sous mon nom, un roman jeunesse sous un premier pseudo. Puis était prévu l'année suivante un roman littéraire, encore sur un nouveau pseudo, et un polar. Et donc, quand j'arrive au polar, c'est le quatrième sur ma liste, et j'attaque le polar. Donc, j'avais pas prévu que ça ait un tel succès, et que je sois tenu à écrire la suite, plus la suite de la suite. Donc voilà, j'y suis, mais c'était pas une volonté de ma part. J'ai pas choisi le polar parce que c'est un style qui m'intéressait. J'ai choisi d'écrire des romans d'une façon générale, sauf le premier qui était un essai. Et il se trouve que dans les romans, il y a eu un roman jeunesse, un roman littéraire et un roman policier.
Au fond, peut-être que Yeroul Delguer, c'est comme ça qu'on dit.
À peu près, oui.
va vous poursuivre un petit peu comme Sherlock Holmes a poursuivi Conan Doyle, qui avait essayé de l'assassiner qui a dû le ressusciter.
Qui a essayé de l'assassiner, qui a jamais réussi. Hein. C'est ouais. Le personnage, le type même du personnage de littérature qui dépasse son auteur et qui le hante. Moi, mon histoire est différente, mais puisqu'on se raconte un petit peu, moi, j'ai commencé par la littérature générale, entre guillemets, et un aspect particulier qui était la nouvelle, le texte court. Et j'ai pas mal fréquenté, j'ai pas mal écrit des textes courts, donc qui sont difficilement publiables en France, à part dans le domaine de la revue, du magazine, etc. Donc je m'étais longtemps occupé de ce qu'on appelle des fanzines, c'est-à-dire des petits magazines qu'on fait soi-même, qu'on massicote, qu'on va vendre dans la rue à la criée, etc., pour montrer sa propre production. Je me souviens quand j'avais 20 et quelques années, j'avais eu mon premier article dans la quinzaine littéraire de Nado, où on présentait le magazine que j'avais fait, où il y avait un extrait de mon texte, j'étais super fier, etc. Et moi, en fait, j'étais au départ vraiment dans la littérature générale avec une accointance pour le fantastique, mais le fantastique classique, Edgar Poe, Conan Doyle, etc., etc. Et puis un jour, j'ai dit, voilà, si tu veux être publié en France par un vrai éditeur, il va falloir que tu passes par le roman, parce que la nouvelle est très compliquée à faire paraître. Donc il faudrait que tu écrives un roman. Et je me suis mis au policier en fait complètement par hasard, parce que il y avait un personnage qui me fascinait, mais pas parce que c'était du policier, c'est parce que c'était ce personnage de Holmes, Sherlock Holmes, donc tout le monde connaît ce personnage de détective privé inventé par Arthur Conan Doyle, et qui avait cette particularité assez incroyable d'avoir été complètement d'avoir dépassé son créateur, puisque Arthur Conan Doyle envisageait lui d'écrire des ouvrages qu'il appelait sérieux, c'est-à-dire des romans historiques. On peut trouver encore aujourd'hui aux éditions Phébus, c'est des bouquins qui sont excellents. C'était pour lui ça, la vraie littérature. Et quand il a écrit Une étude en rouge en 1887, pour lui, c'était quelque chose d'assez alimentaire.
Oui, il y avait même ces récits de voyages dans l'Antarctique.
Exactement.
Où il est médecin, il est attaché justement au service scientifique du bateau. Et
voilà, c'était sa première expérience de marinier. Il avait commencé à écrire dans ce cadre-là. Et donc, c'était plus que le policier qui m'intéressait, c'était ce rapport entre un personnage et son créateur. Et donc, j'ai écrit un premier roman que j'ai envoyé, alors, comme n'importe quel auteur débutant, c'est-à-dire... On imprime son manuscrit et on l'envoie à des éditeurs. Alors, j'avais envoyé à 4 éditeurs. Évidemment, dans ces cas-là, il faut choisir les plus gros. Hein. On tape aux portes les plus importantes. Et je m'étais dit, à Gallimard, Albin Michel, je ne sais plus quoi, et 10-18. Parce que 10-18 était à l'époque l'éditeur qui publiait à la fois la littérature générale et aussi la littérature dite de genre, mais de ces auteurs que j'aimais. Donc il y avait Conan Doyle, il y avait Edward Burroughs, Donc, je l'ai envoyé, j'ai eu un coup de fil très vite de l'éditeur, donc, comme dans un rêve, un téléphone, on adore votre bouquin, est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc moi j'étais super fier, parce que je me suis dit, mon bouquin va paraître, etc. Sauf que l'éditrice m'a dit, écoutez, nous chez 10-18, on a une politique, c'est quand on lance une nouvelle série, quand on publie un bouquin en grand détective, donc c'était vraiment la collection phare, pour montrer au libraire, au lecteur que l'auteur en a sous le pied, entre guillemets, on publie toujours deux bouquins en même temps. Et je dis, mais oui, mais moi, j'en ai écrit qu'un. Il dit, mais qu'à ça ne tienne, est-ce que vous êtes d'accord pour écrire un deuxième? Donc là, je me suis retrouvé effectivement avec un personnage que j'avais inventé pour un bouquin.
Quel est récurrent.
À le faire revivre. Pas revivre parce que je l'avais fait mourir, mais le remettre pour une nouvelle aventure. Et c'est comme ça, parti. Et là, j'ai publié là, en janvier le sixième volume de la série, Hollywood Monsters.
Et vous, Sonia, vous aviez publié... Alors, l'importance de l'éditeur, quand même, parce que vous aviez déjà publié 3 livres avant d'arriver chez De Noël, qui a peut-être plus de, d'influence ou de
poids.
De
aussi,
poids, quoi. Et, enfin, qui arrive en tout cas jusqu'en Suisse romande, par exemple. Ça compte beaucoup
Bien sûr, ça compte beaucoup, surtout qu'il y a une équipe absolument formidable avec laquelle, qui entoure l'auteur, qui l'enveloppe. Et qui le guide. J'ai commencé chez un petit éditeur lyonnais auquel je dois beaucoup aussi. Hein. Je renie pas du tout. J'ai pas la mémoire courte parce que vraiment ça a été un tremplin aussi. Ensuite, j'ai publié le deuxième thriller chez Cogito à Montréal. Bon, là je m'étends pas là-dessus. C'était
mes aventures,
comme on peut en connaître tous, plus ou moins. Et puis ensuite, bon, il y a eu une sorte de petite valse de grosses maisons d'édition qui était sur le manuscrit en question, enfin, que je présente ici. Et qui pour
Dont
finir,
Dust.
Dont Dust, voilà, qui pour finir a été pris par De Noël de façon définitive après un petit transit par plomb.
Et vous aviez déjà ce style très très percutant, j'allais presque dire, et c'est pas péjoratif dans mon esprit, mais international, je dirais. C'est très
des images, une dimension très... un peu internationale, parce qu'en fait, j'étais imprégnée quand même pas mal de littérature étrangère quand je lisais la littérature dite blanche, surtout anglo-saxonne, russe également. Mais c'est quand même les anglo-saxons, oui, qui sont un petit peu mes références aussi. Et j'aime beaucoup l'écriture dite à l'os, comme chez Raymond Carver, par exemple.
Pas à l'os sanglant, parce que c'était ses chansons.
Non. Et l'écriture à l'os qui, surtout, apparaît aussi dans beaucoup de nouvelles anglo-saxonnes.
Mm-hmm. Donc très dépouillée.
J'aimais,
très...
parce que c'est marrant, bon, on a peut-être un petit parcours similaire au début avec la nouvelle. J'ai commencé effectivement par des nouvelles. Et puis mon tout premier petit roman qui a été publié chez Jacques André à Lyon. Je dis petit roman parce que c'est 50 pages. Oups. Et initialement, c'était une nouvelle qu'il a transformée en roman.
Il a un petit peu rallongé.
Et il m'a demandé de restructurer de façon à ce que ça devienne un roman. L'exercice de la nouvelle étant un exercice, je dirais, maintenant que j'écris des romans, très difficile. Parce que maintenant, étant dans le roman, je me verrais mal retourner à la nouvelle.
Mais vous aviez déjà ce style assez percutant, assez réaliste.
Oui. Avec ce premier roman de 50 pages, La journée d'un sniper, je l'avais. Le deuxième, peut-être un petit peu moins. Je suis partie dans un thriller un petit peu fantaisiste. Et puis Le Hameau des Purs, donc publié à Montréal. Oui, j'avais déjà le style, assez des phrases quand même courtes. Et
parce que quand on part dans cette dimension-là, bon, on pense d'ailleurs, vous le citez volontiers, Stephen King ou tous les maîtres américains.
C'est un des plus grands, à mon sens, dans ce domaine.
Et puis il y a toute cette escouade maintenant des écrivains du Nord, enfin les Nordiques,
les Scandinaves.
Tout à fait. Ce qui montre bien que les Américains ne sont pas les seuls à pouvoir le faire, pour commencer.
Bien sûr. Les Français aussi.
Oui, justement.
Accessoirement.
Angers et compagnie. Est-ce que ça vous donne une espèce de barre, une espèce de... Ouais, il faut se mesurer à ce genre de niveau, quoi. En matière de recherche, de tout ce qu'on peut nourrir un roman.
On va dire, si on pense trop à ça, là, on n'écrit plus, quoi. Hum. Parce qu'il y a de telles plumes que je me dis, bon, si j'essaye de... Non, j'écris plutôt... Enfin, je pense à mon parcours.
On se libère des modèles.
On se libère. Bon, c'est un peu une discipline apprise aussi aux Beaux-Arts, puisque j'ai commencé en fait par les beaux-arts, par la peinture, alors que l'écriture était toujours là, toujours présente, mais j'ai eu besoin de m'exprimer à un moment donné au travers de la peinture. Et aux beaux-arts, de même qu'au conservatoire, en musique aussi, bon, parce que j'ai fait du piano aussi, bon, on nous disait toujours, on apprend ses classiques, le dessin académique, mais ensuite on désapprend. On casse tout, on casse tous les modèles, on désapprend. Bon, j'ai pas trop fait ça dans l'écriture. Je me suis lancée un peu plus à, on va dire, à plume perdue. Et puis, il faut trouver sa voix, V-O-I-X et V-O-I-E. Enfin, les deux voix.
Son
chemin, voilà, et sa voix. Et forcément, on est influencé, on a des maîtres, quelque sorte, à penser. Mais ce à quoi, personnellement, je me mesure, on va dire, c'est tout simplement l'écriture, quoi.
Parce qu'au fond, tous les trois, ce qui pourrait vous rassembler, c'est que vous êtes mis des contraintes. Par exemple, Yann, écrire sur la Mongolie, ça veut dire quand même... Moi, j'étais complètement bluffée la première fois que je vous ai lu. J'ai cru que vous étiez ou mongole ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, bon, et je pense que je n'ai pas été la seule... À me laisser prendre au jeu, ce qui veut dire qu'il y avait un gros travail de recherche là derrière. Ou...
Pas du tout.
Ah. C'était intuit. Il y avait du sombre, il y avait Gengis Khan en vous.
Non, honnêtement, pas du tout. C'est-à-dire que Quand j'ai décidé d'écrire ce polar mongol, d'abord j'ai décidé d'écrire un polar mongol. J'ai choisi le thème avant parce que ça me parlait.
Mais pourquoi ? Parce que c'est pas.
Parce que encore une fois,
c'est.
Non, parce qu'encore une fois, c'était à la suite d'un pari. Donc, j'arrive à écrire ce bouquin. J'ai donc un polar à écrire. Et j'ai un boulot à côté. Hein, que je continue toujours à travailler. Et j'ai un boulot qui consiste à gérer une petite agence de communication spécialisée dans le voyage. Et quand j'ai à choisir un titre, à choisir une photo, à choisir quelque chose, d'une façon générale, j'ai toujours appliqué dans mes 30 ans ou 35 ans de carrière. Un principe qui est très efficace, c'est que le choix doit être pertinent et inattendu. S'il n'est que pertinent, c'est banal. S'il n'est que inattendu, c'est hors sujet. Mais pertinent et inattendu ensemble, ça donne toujours un bon choix. Pour une photo, pour un titre, pourquoi pas. Et donc, quand j'arrive à cette liste et que j'arrive en quatrième sur le polar, je me dis qu'est-ce qui peut être pertinent et inattendu. Donc, pertinent, ça va être un polar, maintenant, et inattendu. Et là, j'ai eu le choix entre soit qu'il soit inattendu dans le genre lui-même, c'est-à-dire très psychologique, très violent, très ceci. Ou alors inattendu dans l'espace, dans l'endroit où ça se situe. Et j'ai cherché dans les voyages que j'avais aimé faire, Patagonie, Alaska, Islande, Mongolie. J'ai cherché celui qui me plaisait. Bon, il y a des choix qui sont imposés. Patagonie, Caril Ferret le fait très bien en ce moment. Il arrive avec le prochain, d'ailleurs, très bientôt. Alaska, il y a une tradition de polar sur l'Alaska. L'Islande, bien évidemment. Et donc, la Mongolie était presque un choix par défaut.
Il n'y avait plus que ça.
Mais ça me plaisait quand même énormément, mais c'était presque un choix par défaut. Une fois que j'y suis attelé, je me suis rendu compte que c'était un choix parfait. Parce que la différence des autres, pas vraiment la différence, parce qu'on peut aussi considérer que la Patagonie et l'Alaska sont aussi des zones chamaniques. Mais la Mongolie, c'est un vrai, vrai pays chamanique. Et la force que j'ai d'un seul coup découvert dans ce choix, c'est que la tradition chamanique donne aux éléments essentiels du polar, la mort, la violence, la vengeance, etc., une accroche différente, une aspérité différente. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que ça rendait mon personnage fort, d'un seul coup. Ouais. Mais pour répondre à votre question, moi, je débarque, je n'ai aucune référence de polar. Je n'étais pas lecteur de polar. Ma culture polar, elle s'arrête dans les années 80, Ludlum, Forsythe, Le Carré, et basta. Je n'ai lu aucun polar avant d'attaquer celui-ci. Et je pense que la construction de l'histoire, de l'intrigue de Yahoud Lelger et des Temps Sauvages, je pense qu'elle s'apparente plus à ce que j'ai pu assimiler comme polar télévisuel ou cinématographique que polar écrit. Donc, à la fois c'est un handicap, parce que je me lançais un peu dans l'inconnu, et à la fois c'est un avantage, parce que je n'ai pas de référence, je n'ai pas de barre, je ne cherche pas à me comparer à personne. Je rentre dans une histoire, je m'y plais bien. Et même pour aller plus loin dans l'histoire de contraintes, j'ai aucune contrainte d'écriture. Même pour vous dire, je n'écris que sur mon lieu de travail. Je n'écris pas dans le calme, chez moi, à part, à la campagne, etc. J'écris sur mon lieu de travail, j'ai donc mon agence, on est 5, je suis le patron, tout passe par moi à un moment ou à un autre, les coups de fil, les commandes, les maquettes. Et sur mon écran, j'ai mes maquettes et mon manuscrit, je passe de l'un à l'autre pour une ligne, 10 lignes, 2 pages ou 10 pages. Sans problème, et je suis désolé de le dire, parce qu'on fait souvent des conférences avec d'autres auteurs qui, je parlais par Caril Ferret, Caril disait qu'il passe un an à se documenter, il va sur place, il se documente à fond.
Oui, lui, spécialement.
C'est ce qu'il vient de faire là, avec le Chili, il est rentré, et après il passe un an à écrire, et il avait cette expression au Quai du Polar, et quand je rentre en écriture, à 6 heures, je descends dans la mine. Moi, je ne suis jamais descendu dans la mine,
Vous êtes un flemmard, quoi, si on peut le dire.
Oui, mais il faut dire que le premier essai que j'ai fait, ça s'appelle Le Temps du Voyage chez Transboréal, qui est un excellent petit éditeur de voyage. Et le sous-titre, c'est Petite causerie sur la nonchalance et les vertus de l'étape. Donc, déjà, je défendais que dans le voyage, ce qui fait la force du voyage, c'est la paresse et la halte plutôt que le déplacement. Donc, oui, je dois être un peu nonchalant et paresseux, il faut le dire aussi.
Oui, mais enfin, bon, ça, c'est. Si vous dites ça parce que vous communiquez très bien, mais. J'observe quand même que vous avez, il y a des coutumes mongoles qui apparaissent dans le roman, des réflexions philosophiques.
Non, encore une fois, une autre façon que j'ai travaillé, alors c'est un peu prétentieux de dire une façon de travailler parce que ce n'est que mon deuxième, donc j'ai pas de technique. Mais en tout cas, j'ai travaillé les deux premiers pareils. Je ne me documente pas avant. C'est-à-dire que je n'avais pas à lire sur les sujets que j'aborde, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Je ne me sers, et là c'est une volonté, je vais vous expliquer pourquoi après, je ne me sers que de mes propres souvenirs. Tout ce qu'il y a dans les deux bouquins, tout ce qu'il y a dans les deux bouquins sur la Mongolie, le chamanisme.
Vous avez voyagé beaucoup là-bas.
Sont des choses. On a voyagé ensemble avec ma femme et ma plus jeune fille 5 semaines en 2008. Mais moi, j'ai l'âge d'avoir été un vrai hippie, donc d'avoir voyagé sandales, cheveux longs, cigarettes parfumées, et de voyager comme une éponge. Donc on a l'habitude de bien s'imprégner des pays qu'on traverse. Ouais. Et je ne me documente que a posteriori. C'est que quand j'écris, je ne me sers que de mes souvenirs, et si j'ai un léger doute, soit sur une précision, je laisse le mot en rouge dans le manuscrit. Et une fois que j'ai entièrement terminé l'histoire, que j'écris d'ailleurs sans plan et d'un seul jet, sans revenir en arrière, une fois que j'ai terminé, je reprends le manuscrit et je regarde les mots que j'ai placés en rouge sur l'écran. Et là, ça veut dire que soit je dois vérifier effectivement si c'est exactement ça, au niveau de la date, au niveau du lieu. Donc ce ne sont que des vérifications. Mais j'aurais détesté écrire un bouquin, par exemple, où on dit Yarhud Elgar rentre dans les yourtes, virgule, la tente traditionnelle mongole, et derrière, deux pages de description. Non, je préfère disperser les choses. Par exemple, je me suis toujours efforcé d'utiliser les noms de la nourriture ou des aliments, le nom mongol d'abord, sans l'expliquer. Quitte à dire, 10 lignes plus loin, il reprend une portion de ravioli au mouton, et on comprend que ce que j'ai dit plus haut, c'est... Plutôt que de dire tout de suite, il prend une portion de machin, virgule, les fameux ravioli au mouton.
Le côté explicatif, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas un guide de voyage.
Et ça s'explique surtout parce qu'encore une fois, j'écris d'un seul jet. C'est que je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas.
Juste une question, quand tu parlais de terme en rouge, c'est au fil de la plume, quand tu as une hésitation sur quelque chose, tu mets en rouge.
Quand j'écris dans mon manuscrit, je sais que là, il faut que je revienne, alors il y a différentes questions de revenir.
Et donc, ultérieurement, tu reviens pour vérifier la.
Ça peut être l'orthographe d'un nom, une précision sur un lieu. Éventuellement une coutume dont je me souviens, mais il faut que j'aille voir si j'ai pas oublié quelque chose d'important. Mais ça peut être aussi, d'un coup, je me rends compte que, comme j'écris sans plan, ça part un peu dans tous les sens, et d'un coup, il y a une idée qui me vient à la page 300, 350, et je me dis, tiens, elle est bien, je la garde. Mais pour qu'elle soit forte à la page 350, je me rends compte qu'il faut qu'il y ait un jalon quelque part à la page 200. Donc voilà, et je le mets en rouge. Je sais qu'il faudra que je revienne remettre un petit jalon un peu. Mais c'est dû à ma façon de travailler.
Mais pourquoi d'être comme ça en flux tendu? Vous avez peur que si justement vous interrompez, ça va couper l'inspiration?
Non, c'est peut-être parce que j'ai commencé tard, donc il faut que j'écrive vite.
C'est la même chose pour vous, Brice?
C'est passionnant d'entendre les autres comment ils travaillent, parce que moi c'est totalement le contraire. Donc, exactement ce que tu dis pas. Ah, moi je sais pas. Non, c'est d'abord plan. Moi, quand on parlait de la nouvelle, c'est un rythme qui m'est naturel. Donc, j'essaie de scander mon texte. Les chapitres sont comme autant de nouvelles que j'écris. Et il y a vraiment un souffle d'écriture qui correspond vraiment à ce découpage-là. Donc, c'est un découpage à la fois narratif, parce qu'il y a une découpe naturelle qui se fait, mais qui est aussi un découpage de l'ordre du souffle d'écriture, c'est-à-dire que tous mes chapitres en plus font à peu près 20 000 signes, donc c'est quelque chose qui correspond à un rythme.
Respiration.
Voilà. Donc je sais à peu près combien il me faut de jours pour écrire mon chapitre. Il y a quelque chose d'assez naturel par rapport à ça.
C'est une discipline en même temps.
De toute façon, l'écriture est une discipline. C'est quelqu'un qui n'est pas discipliné peut difficilement écrire, mais il y a aussi.
C'est soit une grande discipline, soit un grand bordel.
Il y a aussi la discipline. De l'indiscipline, on va s'en sortir comme ça.
Oui, on s'en sortir comme ça. Ouais.
Et non, c'est une énorme documentation, parce que...
Bah, spécialement vous, qui êtes vraiment un admirateur de quelques écrivains, je pense que vous ne voulez pas leur faire défaut, vous ne pas écrire...
Alors, il y a non seulement ça, mais c'est surtout qu'en plus, ce sont des romans qui sont, entre guillemets, historiques, puisque ça se passe dans les années 30.
Oui.
Et que moi, je n'ai jamais voulu pasticher les bouquins de qui que ce soit. Donc, de toute façon, même si mes détectives sont sur le modèle du détective traditionnel à l'anglo-saxonne, j'ai quand même un point de vue qui est radicalement différent. Et ça, en tant qu'auteur, on sent tout de suite la différence. C'est que, par exemple, les aventures de Sherlock Holmes sont racontées par son binôme, Watson. Donc, c'est une hagiographie des aventures de Sherlock Holmes. Et Watson raconte admiratif sur tout ce que son acolyte merveilleux fait d'intelligent. Mes bouquins, eux, sont racontés à la première personne par celui qui est censé être le personnage principal. Donc, c'est écrit, c'est « je », mes narrations. Donc, il y a déjà une demande d'investissement en tant que narrateur.
Critique, c'est ça.
Mon personnage, je suis censé être mon personnage en tant qu'auteur. Je prends la charge du narrateur, de la narration. Donc il faut que je comprenne comment on vivait à l'époque, comment le personnage que je raconte pouvait ressentir les choses. Après, il y a un gros travail de documentation parce que les intrigues sont à chaque fois au confluent du policier, du fantastique, un peu de science-fiction. Il y a la technologie de l'époque. Alors, je pars pas dans quelque chose qui est improbable à l'époque, mais en tout cas, je vais jusqu'au bout de ce qu'aurait pu être.
Voilà.
Par exemple, dans Hollywood Monster, sur le départ de la génétique dans les années 30. Donc, tout ce qui est raconté est réel. C'est-à-dire, je n'ai inventé aucune technologie. Elles étaient déjà plus ou moins en place. J'ai juste été jusqu'au bout de ce que c'était censé pouvoir faire. Et j'ai pas tellement transposé ça dans la science-fiction, puisque ce qui est raconté là, elles sont quand même de l'ordre d'expériences qui ont été menées 2-3 ans après par les nazis.
Et par exemple, Hollywood Monsters, vous citez plusieurs fois, intervient Eisenstein avec cette espèce de suggestion que le cinéma parlant serait venu justement parce que le Potemkin était trop bien monté.
Pour faire la nique aux soviets, comme ils disent.
Ouais. Ça, c'est une déduction qui vous est personnelle ou bien...
Mais alors après, moi, quand je choisis un sujet de roman, c'est parce que le sujet me passionne, que les personnages que je vais faire intervenir, les vrais personnages vivants, enfin, qui ont réellement existé, me passionnent. Donc, je passe un an à me documenter. Mais c'est un réel bonheur. C'est-à-dire, je vais...
La recherche est aussi plaisante.
C'est une centaine de bouquins. Pour Hollywood Monster, c'est, je pense, facilement une centaine d'ouvrages de tout genre. Mais ça me passionnait de connaître cette époque-là. J'ai revu tous les films fantastiques hollywoodiens, de Dracula 1931 jusqu'au Fils de Frankenstein dont il est question en 1938, parce que c'est la période que je couvre et que je raconte dans le bouquin. Les films d'Eisenstein, même s'il y a une phrase qui est dite là-dessus... Moi, j'ai tout vu d'Eisenstein, j'ai adoré, j'ai même lu ses bouquins théoriques qu'il avait fait paraître chez 10-18, justement, dans les années 70. Ça s'appelle « La non-indifférente nature ». Et j'ai jamais lu d'ouvrage, de théorie esthétique aussi puissant que ce qu'Eisenstein avait pu écrire.
À l'époque, déjà, oui.
Donc c'était aussi une époque où, qu'on soit cinéaste, romancier, il y avait un regard sur le travail qui était fait. Et donc, Eisenstein, par exemple, c'était quelqu'un qui a écrit sur le roman français ou le roman britannique des choses incroyables, passionnantes.
Et est-ce que c'est libérateur pour vous, de, en tant que, comme qu'être humain, que créateur, de pouvoir s'identifier comme ça à un personnage de fiction pour le tremper dans différentes ambiances, époques, vivre un peu par procuration toutes ces aventures
C'est-à-dire que, en plus, moi, j'ai fait un personnage qui, au départ, me ressemblait assez, quoi. C'est-à-dire un personnage qui était sans arrêt en train de bouquiner. Parce que le principe, en gros, c'est que c'est un détective lettré, qui passe son temps à lire. Il est tout le temps sur son canapé. En général, les entames de bouquins sont toujours sur le même principe. C'est un peu à la Oblomov.
Vous avez un livre en poche, là?
Je ne l'ai pas, mais il est dans la chambre d'hôtel. Donc, Et lui, il accepte une enquête policière qu'à partir du moment... Alors, il a accepté d'être détective parce que c'est son copain, son binôme, qui est l'actif du duo, qui, lui, est toujours prêt à aller au combat. Mais lui, pas du tout. Et donc, c'est raconté à la première personne du point de vue de ce personnage-là. Lecteur. Un détective lecteur. Et donc, chaque enquête qu'il va accepter de prendre en charge est une enquête qui a un rapport avec un écrivain qu'il admire, un univers culturel qu'il affectionne. S'il va à Los Angeles au début de celui-ci, c'est à la fois parce qu'il est blessé, il faut que le médecin lui dise « Vous avez le teint blême, il faut aller prendre le soleil en Californie », mais c'est aussi parce que c'est Hollywood et qu'il a envie de rencontrer les gens qu'il admire. Mm-hmm. Et c'est vraiment par procuration une sorte de c'est vraiment un alter ego, c'est-à-dire que ce qu'il vit lui, c'est vraiment ce que j'aurais eu envie de vivre.
Vous en rêvez la nuit?
Ça m'est arrivé, ouais, surtout quand il y avait des moments dans le scénario où je vais des points de blocage. C'est souvent à ce moment-là que ça se dénoue.
Et vous, Sonia?
C'était quoi l'Afrique?
Alors justement, vous choisissez d'expatrier toute l'action en Afrique. Est-ce que dès lors que vous situez ça là-bas, il faut quand même que ça soit plus ou moins réaliste dans le travail de documentation, de se conformer à une certaine plausibilité dont on parlait, ou c'est comme Yann Manouk, l'intuition, le souvenir de voyage?
Moi, je commence en fait dans l'écriture par le bordel et je termine par la discipline. Donc... il y a une sorte de vécu quand même, de prise de notes, un peu comme ça en pagaille, des idées, je peux m'imprégner en effet des lieux, je m'imprègne assez vite, quoi. Mm-hmm. Bon, et ensuite je structure en fait le travail d'écriture est multidisciplinaire, hein, c'est à la fois de la recherche, à la fois de la création. Et puis de la construction aussi. Donc pour l'Afrique, j'y suis allée quand même. Hein. Bon, je peux pas. Voilà, pour les atmosphères, il vaut mieux s'imprégner en effet de toutes ces odeurs, de ces bruits, de même si on voit des reportages aussi, c'est pas tout à fait la même chose. En revanche, j'ai une revendication quand même à faire dans l'écriture. Un écrivain a quand même une grande part d'imagination aussi, sinon ça sert à rien d'écrire de la fiction. Donc l'imagination, il faut s'en servir. Et je dis, on n'est pas absolument obligé, comme aujourd'hui ça se fait quand même de plus en plus. Oui, il faut. Moi, on m'a dit, mais si vous n'êtes pas allé en Afrique, je sais pas, c'était une éditrice, m'a dit, si vous m'aviez dit que vous n'étiez pas allé en Afrique, je ne vous aurais pas publié. Enfin, je ne vous prendrais même pas le manuscrit, quoi.
Pour moi, c'est filmé.
Non, on n'est pas. Voilà.
Exactement.
Bon, il se trouve que voilà, je suis allé en Afrique, mais la thématique que je soulève, une des deux enquêtes hein, dans Dust, c'est sur le massacre des albinos. Bien sûr, je n'ai pas assisté à ça, et néanmoins, je pense que c'est assez réaliste, parce que. En effet,
même de nos jours,
avec tout ça, assez... en plus de l'imprégnation directe là-bas, il y a eu quand même un travail de documentation important.
Mais ça s'est passé pour du vrai, ce massacre des
Bien sûr,
albinos.
Bien sûr, ça continue.
Ça se passe en 2012. Là,
oui, mais alors là, au moment où j'ai écrit Dust, il y avait, c'était un peu en veille comme ça. Bon, à chaque fois, à l'occasion d'élections, de manifestations politiques, d'événements politiques, il y a des choses qui sont réactivées. Mais Dust est sorti en avril et White Shadow, qui est un film documentaire là-dessus, sur la situation des albinos dans certains pays d'Afrique, est sorti pratiquement au même moment. Il y a eu un livre aussi. Ils en ont parlé dans Le Monde, enfin vraiment dans la presse, à la veille des élections, notamment en octobre en Tanzanie. Apparemment, le président a l'air de prendre ça maintenant un peu plus à cœur et... Il y a une journée même internationale de l'albinisme qui a été mise en place déjà. Je crois que c'était en mai, il me semble. Je ne sais plus, c'était le 13 mai, quelque chose comme ça.
En tout cas, ce roman, il y a une violence graphique. On est presque obligé. On ne peut pas l'éclipser, je veux dire. Ça vient d'où, cette espèce de colère physique qui s'exprime d'une manière vraiment dans la chair, les os broyés, quoi.
Alors... Je pense. Bon, on peut retrouver ça aussi dans le thriller d'une manière générale.
Bien sûr, mais...
Il y en a d'autres dont je me sens effectivement proche. Alors ça, bon, je vais pas faire de la psychanalyse ici.
Non.
C'est peut-être aussi une fascination.
On sait que c'est pas l'histoire d'être une femme écrivain.
Non,
un homme,
non,
moi, ça n'a rien à voir.
Voilà, mais... On me dit, mais comment, en tant que femme, tu as pu écrire choses comme ça. Je pense que la violence est inhérente à chacun aussi. Ce sont peut-être des pulsions personnelles aussi que j'ignore, mais aussi surtout une fascination pour les failles, les failles humaines. Comment on peut basculer aussi de l'autre côté.
Mais aussi une fascination physique.
Oui, de toute façon, je pense que dans l'écriture, je suis assez physique, d'une façon générale. Pas que dans la violence. Des situations.
Oui, d'ailleurs, voilà, je crois que c'est une des premières héroïnes homosexuelles. Enfin, c'est pas du tout fréquent dans le.
C'est pas le propos. En fait, oui, voilà, elle est effectivement homosexuelle, mais voilà, après, elle aurait pu. Non, je dirais zoophile, pas trop, mais. Non, elle aurait pu avoir une autre
particularité.
Elle a d'autres particularités, en effet.
Mais quand même, les albinos, vous allez quand même vers les communautés les plus stigmatisées.
C'est quelque chose qui est là.
Quoi.
Oui, qui est là, en effet, oui.
C'est pas que c'est venu tard, hein, mais je remarque ça, c'est quand même aussi un certain courage de ne pas aller dans les chemins battus, quoi.
Je suis sensible, en fait, effectivement, aux causes des communautés. Voilà, des minorités. Des minorités.
Et vous vous identifiez au héros? Pas du tout. Alors,
Je vous vois venir. Joker.
Bon. Vous me prenez de court. Vous avez choisi un titre anglais, Dust. Pourquoi?
Alors, toujours.
Ça, c'est un choix quand même.
Mes références anglo-saxonnes aussi. Mm-hmm. Et effectivement, bon, ça aurait pu ne pas passer auprès de l'équipe marketing, mais qui a fini par valider ce choix à cause du nom, du mot percutant. Bon, poussière, c'est un petit peu plus long. Dust. Je trouve que ça vraiment retranscrit tout ce qui se passe dans le livre. Après, j'espère que ça ne déroute pas les lecteurs trop. Enfin, ça ne déroute pas trop les lecteurs dans la mesure où Dust est quand même connu au travers aussi de chansons, de le mot Dust. Hein. Mais le prochain ne sera pas, je pense pas, ne sera pas un titre anglo-saxon en tout cas. Je vais pas prendre...
Vous allez aller vers justement un héros récurrent, bien.
Oui.
Qu'est-ce que ça apporte, une certaine stabilité, mais aussi des.
Alors, j'allais écrire ce qu'on appelle un one shot, et puis je suis en ce moment en correction, et j'ai repris le personnage d'Anna Baxter. Mm-hmm. Voilà, non pas à cause d'une identification, mais à la demande éditoriale aussi. Et à la demande de pas mal de lecteurs qui ont envie de retrouver ce personnage.
Alors du coup, comme ça n'était pas conscient dès le début, est-ce qu'elle vous impose des trucs maintenant j'y pense parce que ça a pu arriver, c'est un héros qui devient récurrent. Ouais. Puis on lui avait donné quelques caractéristiques un peu par hasard au premier livre, et puis il faut les traîner après avec soi jusqu'au bout, quoi.
Alors elle évolue. Il y a des caractéristiques, on va dire inhérentes à sa personnalité fondamentale que je garde, mais elle a sombré pour des raisons qu'on peut découvrir dans la cocaïne, donc une certaine addiction, une certaine forme d'addiction, et là ça va évoluer.
Et il va s'en sortir pour comment
voilà.
Pas tout.
ça évolue, on va dire, et son histoire personnelle aussi. Heureusement, enfin, je trouve par exemple dans les séries qu'on peut voir, ce qui parfois me dérange, ça peut être une certaine immobilité, une certaine fixité dans les personnages qui n'évoluent pas forcément.
Non, je pensais à ça parce que Franck Tillier m'avait dit, justement à propos de son dernier livre, qu'il avait choisi résolument d'écarter l'épouse de son lieutenant, parce qu'elle avait, elle avait été tellement comprise, ça avait donné des super romans hein, par ouais, ça, mais à un moment, elle prenait beaucoup de place, quoi. Ça l'empêchait de traiter des sujets de société et tout, parce qu'il y avait toute cette narration sentimentale un peu, qui était devenue un peu encombrante.
Elle est toujours présente, je trouve, personnellement, dans Pandemia. En revanche, il y a un autre couple qui prend le dessus, et qui est, je dirais, même beaucoup plus intéressant que Charcot et Lucie, à mon sens, dans celui-là.
Oui. Mais Charcot, il me disait, c'est parce que c'était l'inexpérience des premiers livres où il avait un peu chargé le bateau, comment dirait.
On va lui laisser l'appréciation. Ouais.
Est-ce que Yerul Deguerre a des. Vous allez le mener combien de temps? Il va vous servir? Vous allez retourner en Mongolie quand même?
A priori, j'ai mis sur Facebook qu'à la page 483 du troisième, il était mort.
Oh!
D'un autre côté, le
la
bouquin,
réincarnation,
d'un
c'est
côté,
quoi,
le
fait
bouquin
pour
a 512 pages. Donc c'est toujours le grand dilemme de savoir ce qu'on fait d'un héros. C'est-à-dire que dans la mesure où on s'applique à les construire de façon humaine, de leur donner, ils sont donc mortels comme des humains. Donc il faut l'envisager.
Ouais. Après, vous le faites vieillir ou pas? Parce que c'est déjà la première.
Non, il n'y a pas le temps de vieillir. Ça se passe, chaque enquête se passe à peu près sur,
oui, justement,
sur un
an. Justement, donc il peut rester dans un statu quo.
Il prend qu'un an ou deux, donc j'ai 10 ans devant moi pour le faire vieillir. Mais j'étais assez tenté, je suis toujours assez tenté pour écrire une trilogie et l'arrêter brutalement en net. Mais vous vous doutez bien que mes éditeurs n'en sont pas d'accord.
Et si tu rencontres Misery sur ton chemin, ça ne va pas le faire.
Voilà, exactement. Tout le monde me dit ça.
L'infirmière de Misery.
Mais bon, quoi qu'il arrive, oui, il est. En fait, je m'en suis dépêtré un peu d'une autre façon, c'est que le premier bouquin est titré Yerul Deguerre, et c'est le personnage principal, c'est le personnage essentiel. Le deuxième bouquin n'est pas titré Yarou de l'Alger, il a un titre Les temps sauvages. Et quand on le lit bien, le personnage principal n'est plus Yarou de l'Alger, c'est Oyun qui prend le dessus. Ce sont d'ailleurs les deux personnages femmes, Solongo et Oyun, qui prennent le dessus. Et Yarou de l'Alger, lui, est un peu en perdition dans ce deuxième volume. Et donc dans le deuxième, déjà, j'ai placé quelques jalons de personnages intéressants qui pourraient eux-mêmes vivre une vie à part, voire même ce qu'on appelle, les Américains appellent un spin-off. Et dans le troisième, ça va prendre toute sa force. Et la conclusion du troisième est encore complètement ouverte. C'est-à-dire que c'est vrai que la tentation est forte de pas rester dans l'hypocrisie, de dire je fais une fausse fin, il est mort, mais pas vraiment mort, mais vous avez une chance de le revoir, etc. Ouais. Moi, je suis assez tenté, mais j'ai pas pris la décision encore, je suis assez tenté pour dire, bon, là, c'est comme ça, et puis on passe à autre chose, je vais inventer d'autres choses, dans d'autres territoires, avec d'autres héros, etc. Mais encore une fois, l'avantage et le désavantage d'un succès comme mon premier bouquin, enfin, d'un premier roman qui a un succès comme celui-ci, c'est qu'après, ça implique dans la maison d'édition qui vous a fait confiance et qui vous a pris ce bouquin, qui l'a d'une certaine façon aussi porté jusqu'au succès qu'il connaît, qui vous donne une chance d'en faire un deuxième, qui vous commande le troisième, de les écouter aussi un petit peu et de savoir ce qu'on va faire. Donc la décision sur le troisième n'est pas prise. Mais en tous les cas, à la page 483 du troisième, il est mort. Mais le troisième a 512 pages. Donc,
d'accord. Ouais, vous prenez comme ça.
Voilà où j'en suis. Je voulais juste revenir sur un petit point de détail sur le côté de l'imagination. Il y a une chose qui me dérange de plus en plus dans les polars, en général, c'est ce que j'appelle le complexe du, par rapport au lecteur, c'est le complexe de l'expert. C'est-à-dire que de plus en plus, on exige que tout soit absolument vrai, parfait, etc. Dans le troisième, j'avais une scène avec un personnage qui menace quelqu'un d'autre avec un revolver. J'avais choisi un Glock parce que j'aimais bien le nom du flingue, c'est tout. J'ai aucune connaissance dans les armes. Puis j'avais besoin d'un moment que le flingue s'enraye. Pas qu'il s'enraye, mais en tout cas que la personne n'arrive pas à tirer. Et donc, je lui fais dire qu'elle n'a pas enlevé le cran de sécurité. Puis au moment de la relecture, je me dis, mais est-ce qu'il y a un cran de sécurité sur les Glocks? Donc j'y vais, et non, il n'y a pas de cran de sécurité. Donc la scène que j'ai écrite ne pouvait pas se passer. Et donc je raconte ça, en plus on était en Corse, je raconte ça en Corse, les cinq mecs qui étaient avec moi dans la conférence me disent, mais c'est incroyable, tu ne connais pas les armes, tu ne connais pas les machins, etc. Mais je m'en fous que ce soit un Glock. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai pris une liste de flingues, celui qui avait un cran de sécurité, et j'ai pris un Beretta. Puis, en plus, il y a un cran de sécurité des deux côtés, donc il peut être gaucher ou droitier, ça marche de toute façon. Et il y a maintenant une telle exigence dans la lecture, surtout depuis cette série des experts qu'on voit à la télévision, où on exige du roman que tout soit parfait. Mais un roman qui n'est que le récit exact de quelque chose qui est véridique, c'est plus l'imagination. C'est-à-dire que je revendique vraiment cette... ce que je veux écrire, moi, c'est pas des choses qui soient possibles, c'est qu'elles soient probables. Et la différence entre possible et probable, c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'imagination.
C'est la patte de l'écrivain qui se met
en même temps,
juste là.
En même temps, ça nous une petite marche comme ça de faire croire au lecteur. Parce que le polar, contrairement à la blanche, où l'auteur... la blanche est assez déclaratif, ou c'est pas le terme exact, mais dans la blanche, un auteur dit au lecteur quelque chose, et le lecteur le reçoit ou le reçoit pas, mais c'est tout. Il n'y a pas tellement d'interactivité dans la blanche. On le reçoit, on ne le reçoit pas. Le polar, c'est une convention. C'est-à-dire qu'on sait, c'est-à-dire que le lecteur sait que je vais lui raconter une histoire qui n'est pas vraie, c'est-à-dire que je n'ai pas découpé en rondelles des Chinois, j'ai pas, etc. Et on a une convention entre nous qui est de dire, voilà, chapitre par chapitre, je vais vous raconter des trucs, et je vais cacher dedans des indices, vous allez chercher à comprendre, à dire « Ah, j'ai compris la fin, je sais comment ça se termine, et puis moi je vous emmène sur une fausse piste. » Et dans le polar, il y a une convention comme ça, c'est une convention dès le départ. Et s'il n'y a pas cette complicité, et si cette complicité ne peut pas s'appuyer sur le fait que l'auteur peut aller un tout petit peu au-delà du réel, ou un tout petit peu en deçà du réel, ça fausse le truc. Il y a des bouquins, il y a des polars, j'en citerai aucun, parce que chacun peut écrire comme il veut, mais il y a des bouquins... Ça devient maintenant des récits d'enquête, ce sont des comptes rendus d'enquête, pile poil. Ça serait d'ailleurs, il y a de plus en plus de flics qui écrivent des bouquins, ce sont des comptes rendus d'enquête. On commence au début de l'enquête, on termine l'enquête, on a tous les trucs exacts, et tous les termes sont exacts dedans. Moi, il y a un personnage que j'appelle le policier de district. Quand nous sommes allés en Mongolie, j'ai vu des policiers locaux qui n'avaient pas la même, les mêmes prérogatives que les policiers de Ulan Bator. Je ne suis pas allé, m'enseigner pour savoir si ça s'appelait un policier de district. Mais pour moi, dans ma tête, pour un lecteur français, policier de district, ça veut bien dire quelque chose. Et ça le cadre tout de suite. De la même façon que yourte n'est pas le vrai terme de la yourte en Mongolie. Ça s'appelle yourte un peu partout, sauf en Mongolie où on l'appelle une seule guerre. Mm-hmm. Et je me voyais, alors que la yourte c'est quelque chose de rond, c'est un cocon, il y a presque quelque chose de féminin, on est parti dans le ventre de quelque chose. D'ailleurs, c'est dans la tradition chamanique mongole, c'est le centre de tout. C'est là à la fois le centre, la forme ronde représente la maternité, la féminité, la terre, et l'ouverture au sol qui reçoit la lumière des étoiles, c'est le lien entre la terre et le ciel. Enfin, il y a une signification. Et yourte, c'est tellement rond comme terme, c'est tellement beau, et ça porte chez nous déjà tellement de feeling, de subjectivité, que je me voyais mal utiliser ce mot guerre, qui chez nous est tellement dur, et à chaque page dire, voilà, il rentre dans la guerre, il sort de la guerre, et ça me gênait. Donc je préfère être un tout petit peu faux, mais que le sens que je donne aux choses soit juste. Le mot peut-être pas, et c'est pareil avec les flingues, c'est pareil avec plein de choses. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur la notion d'imagination, parce que c'est avant tout du roman. Et c'est avant tout de l'imagination. Et même dans les tiens, je veux dire, même quand on s'appuie sur des choses historiques, il y a toujours une part d'imagination, parce que sinon, si c'est juste que de l'histoire, et c'est pour ça que j'aime bien la notion de prendre des faits qui existent et d'y rajouter ce petit supplément d'âme qui est l'imagination de l'auteur. Et là, on arrive à quelque chose qui captive.
Mais moi, en ce qui me concerne, la documentation n'est qu'un outil que je vais utiliser pour pouvoir illusionner le lecteur. C'est-à-dire que là, effectivement, on est dans la fiction, je vais vous raconter, on est exactement dans ce que tu racontes. Le pacte de lecture est, vous prenez un bouquin qui est identifié polar ou quoi, okay. Mais en tout cas, il y a une histoire qu'on va vous raconter, il faut que vous soyez d'accord pour que je vous la raconte et que vous y croyez. Après, moi, ce qui m'amuse avec la documentation, c'est de faire croire jusqu'au bout que quelque chose... puisque moi, en gros, mon univers est un univers en quelque sorte parallèle, c'est-à-dire que ce sont les années 30 européennes ou mondiales, mais ce ne sont pas réellement... C'est pas la vraie vie. C'est des histoires que je raconte où les fantômes peuvent revenir.
C'est ça, vous mélangez d'ailleurs des personnages de fiction.
Moi, je vais très très loin. Moi, j'ai fait revenir les dinosaures à Londres en 36. Donc, si vous voulez, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de malentendu. Moi, quand je vous parle de documentation, c'est une documentation qui est pour moi un outil pour à un moment amener le lecteur là où il ne pense pas qu'on va l'emmener. C'est-à-dire, en gros, voilà, on est vraiment de l'ordre du magicien. C'est-à-dire qu'un magicien, pour faire son tour de magie, il a besoin du chapeau, il a besoin du foulard, de la table, et puis il met un habit un peu particulier qu'on identifie comme l'habit du magicien, pourquoi ? Et puis après, il va jouer avec ça pour faire apparaître quelque chose. Et moi, mon but, c'est vraiment d'amener le lecteur à un truc auquel il n'aurait jamais pensé au départ, parce que mon bouquin, au départ, est effectivement imprégné de références historiques qui ont l'air tout à fait vraisemblables. Mais en plus, moi, je me suis toujours dit, c'est une règle d'or, c'est-à-dire que mon premier bouquin se passait à Londres. J'avais été une fois à Londres il y a plusieurs années. Je n'ai pas été à Londres pour écrire mon livre. Et après, on m'a dit, le bouquin avait été traduit en anglais. Les auteurs anglais m'ont dit, mais vous connaissez merveilleusement Londres. On sent que vous y avez vécu. J'ai dit oui, ok, parce que j'avais pas envie d'entrer dans le truc, mais c'était pas vrai. Bon. Los Angeles que je raconte là-dedans, c'est un Los Angeles qui est vrai parce que c'est un Los Angeles il y a presque un côté platonicien, c'est le Los Angeles des années 30 tel qu'on se l'imagine. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans ce que j'ai, voilà, parce que j'en ai besoin narrativement, je vais choisir ce dont j'ai besoin moi en tant qu'auteur et pas la réalité. Il y a des choses qui ne sont pas vraies.
Oui. Est-ce que ça vient aussi, cette liberté, du fait que vous ne situez pas l'action de nos jours, que vous êtes déjà dans un passé qui donne déjà cette patine, cette marge de...
Voilà, mais après, il y a effectivement un travail qui est un peu équivalent à... Il y a quelque chose un peu artisanal, c'est-à-dire que c'est comme quand on veut faire un meuble... qu'on dit avoir été créé en 1930, ouais, il faut qu'on reprenne un petit peu comment on faisait un meuble à cette époque-là, les techniques de voilà. Et donc c'est vrai que pour le coup, si je lis pas mal de bouquins qui se sont passés à cette époque-là, c'est pour repérer par exemple d'un point de vue lexicographique quels sont les termes qu'on utilisait, enfin voilà, pour donner un moment couleur locale. L'idée étant, c'est de faire croire au lecteur que le narrateur, puisque c'est écrit à la première personne, a réellement vécu ce qu'il raconte. Donc pour ça, il faut faire en croire que le narrateur est quelqu'un qui vit dans les années 30 pour après partir sur une intrigue qui est complètement barrée.
Et vous avez déjà songé à les trucider, ces deux héros là?
Mais moi, quand j'ai le premier bouquin de la série, dans la préface, comme c'était un manuscrit que j'avais envoyé sans idée qu'il y aurait une suite, j'avais déjà donné une date de mort de mes personnages.
Ah oui.
Il y avait écrit que Trelawney mourait sous les balles nazies en 1944 et que Singleton finissait sa vie en 1970
dans un cottage canadien.
Alors il y en a au moins qui vieillit, le deuxième vieillit un petit peu moins, il va vite mourir.
Mais pourquoi cette volonté de mettre
Je n'avais pas, j'avais pas idée que ça serait une série. Donc ouais. Pour moi, c'était un one shot. Pour moi, en plus, j'aime bien jouer avec les codes littéraires. Donc, moi, je mets des faux avant-propos de l'éditeur qui sont été écrits par moi, des fausses notes de bas de page qui sont été écrites par moi.
Rassurez-moi, même... vous ne faites pas vos propres critiques.
Non, je ne fais pas mes propres critiques. Mais il y a aussi un bouquin que j'avais écrit ou qui était censé avoir été écrit de l'anglais où je mettais aussi un faux nom de traducteur. Donc, tout ça est un jeu. Donc, c'est comme ça que j'utilise. J'aime écrire les fictions, c'est vraiment un côté très ludique. C'est pour ça que quand j'ai parlé de manière un peu sérieuse de la documentation, c'est une période. C'est une période qui est importante pour moi, un côté imprégnation, mais duquel je me dégage très, très vite et duquel il faut se dégager, puisque alors, rien de pire, effectivement, que les bouquins ou les auteurs qui se sont beaucoup documentés vont mettre un pied d'honneur à surtout rien perdre du temps qu'ils ont perdu à lire et à se documenter. Et il faut qu'il y ait le listing, voilà, donc effectivement, la yourte, la description, le truc, enfin, je sais pas ce que c'est, mais ça pourrait être un exemple. Et il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. Et c'est vrai que moi, je pense que je garde 3 à 4% de ce que j'ai lu, j'ai pris. Alors, il faut accepter de faire le deuil de ça, mais je pense qu'on réussit vraiment à écrire des bouquins qui se situent à une histoire, à un moment passé de l'histoire. Enfin, à partir du moment où on réussit à faire le deuil de ça. Surtout pas montrer au lecteur le travail que ça a demandé.
De compost, de substrat, où justement l'écriture peut naître et germer. Tout ce que vous avez lu et tout est digéré, puis fait une espèce de chose qui devient presque inconsciente d'ailleurs.
Ah oui, de toute façon, après un moment, tout ça s'est rangé.
Ressurgit, mais...
C'est comme vous dites, le compost, il y a des germes, il y a des gaz qui s'échappent, et c'est ça qui va commencer à créer l'intrigue.
Et vous, Sonia, c'est pareil. Je me demandais d'ailleurs si Internet avait changé un peu la manière de travailler. Et ça, c'est pas particulier au polar, mais un auteur là m'expliquait que depuis Internet, avec la facilité des recherches qu'on peut faire, elle avait remarqué qu'elle sautait d'un sujet à l'autre beaucoup plus facilement. Comme, vous savez, quand on est en surf, on veut d'abord, je ne sais pas, on va connaître le prix d'une armoire anglaise au XVIIe siècle, et puis on tombe sur autre chose, qui nous amène à autre chose. Ça a une influence.
Internet a modifié pas mal de choses aussi, modifié les comportements, modifié même, paraît-il, les fonctionnalités du cerveau, en quelque sorte, puisqu'on est dans l'instantanéité, on est dans le... Oui, tout de suite. Alors, la documentation, bien sûr, c'est évident que si on est à 40 km de la première bibliothèque, c'est pratique. Mais il faut faire un tri. Si on se base sur des choses trouvées sur Internet, parce qu'il y a, comme on dit, à boire et à manger, il y a vraiment du faux. Voilà, comment faire la part des choses? Il faut à un moment donné, malgré tout, se plonger dans des ouvrages sérieux.
Mais les techniques policières... toutes les techniques policières sont quand même aussi beaucoup influencées. Le catalogage, le fichage, la détection... C'est quelque chose que vous faites intervenir dans vos romans
Pas outre mesure, justement. Quand Yann parlait de certains auteurs, donc on ne citera pas, qui sont... d'ailleurs, s'il y a des policiers, des flics qui écrivent, eux, ils savent très bien de quoi ils parlent. Et bon, je leur laisse leur partie. Moi, ce n'est pas la mienne. Justement, c'est pour ça que je différencie un petit peu ce que j'écris du polar. Ça reste un thriller, mais roman, plutôt romanesque, où je m'octroie un petit peu plus de liberté quant à la technique policière pure. Évidemment, oui, voilà, l'histoire du Glock, c'est vrai que, bon, mais...
Vous avez eu des mésaventures,
Non, pas spécialement, mais bon, c'est vrai que je vais directement dans la liste des armes, hein, donc je regarde les caractéristiques des armes aussi. Mais je revendique quand même, dans l'aspect romanesque, justement, l'invraisemblance, une certaine forme d'invraisemblance, évidemment. Jusqu'où, pas...
Ouais.
Pas un point totalement fantaisiste, mais malgré tout... L'essentiel, c'est que le lecteur y croit, mm-hmm. et s'y croit dans un endroit, même si l'auteur ne l'a jamais visité, mm-hmm. et n'y est jamais allé.
Parce que bon, l'incident du Glock est un très bon exemple, parce que mm. c'est une minuscule chose qui ne devrait pas être péjorative sur l'ensemble du roman, mais j'imagine que quelqu'un qui connaît ce détail va décrocher, parce que tout le reste sera plus plausible, du coup.
Ah ben, un lecteur policier, par exemple, un flic...
Beaucoup d'indulgence.
Ou alors un lecteur qui s'y connaît en... Je ne sais pas s'il
décrocherait ou il y a un très mauvais exemple, c'est que je me souviens de critique littéraire d'un gars sur... dans une émission de télé, le soir, très très tard, qui... Un couple qui déglingue tout le monde. Et je me souviens de l'ancien chroniqueur qui épluchait les bouquins pour chercher des erreurs de ce genre.
Ah,
et qui disait, mais à la page tant de tel bouquin, votre mec a tiré sa 8e balle. Or, cette arme n'a que la chargeur de 7.
Ouais,
et
là,
qu'est-ce que ça change à l'histoire? Ça ne change rien.
C'est la persécution.
Même pour être caricatural, sur Yerul Elger, une grande partie du succès, c'est la façon dont j'ai aimé et retranscrit ce que j'ai aimé de la Mongolie, c'est-à-dire les traditions, etc. Et on me dit souvent, c'est une magnifique tradition, vous les décrivez bien, cette façon de rentrer dans les gourdes. Et puis, un jour, on avait ce discours dans un échange, au Quai du Polar, je crois. Et on aborde ce sujet de la véracité. Mm-hmm. Et je dis à quelqu'un qui intervenait dans la salle, mais imaginons que j'ai créé un pays fantastique, imaginaire, ablon comme on veut, et que j'écrive exactement la même chose, les mêmes traditions, les mêmes habitats, mais c'est pas la Mongolie, c'est un truc complètement imaginaire. Est-ce que vous auriez aimé différemment ce que j'ai écrit, sous prétexte que ça n'existe pas dans un vrai pays? Et il s'est trouvé la moitié des personnes pour dire oui, on n'en aurait pas aimé du tout, on aime parce que c'est là où il y a cette exigence de la vérité qui est comme une sorte de frein à l'imaginaire. Il y a un moment, il faut que le lecteur, autant que nous, accepte de se laisser embarquer dans l'imaginaire.
Mais ça nous vient de la culture de l'image.
Oui, absolument.
Énormément.
Absolument.
Je veux dire, à cause des reportages ou des téléréalités, absolument, la réalité à tout prix, les reportages exacts. Et donc, forcément, l'imaginaire perd un petit peu de terrain là-dessus.
Mais est-ce que les deux ne doivent pas se conjuguer? Parce que, personnellement, par exemple, ce qui me plaît beaucoup dans vos livres, c'est toute la philosophie. Alors maintenant, je ne sais pas si elle est mongole ou si elle est manoukienne. justement, ces petites phrases qui glissent.
Eh bien, après, c'est le plaisir d'écrire. C'est aussi de... en dehors de l'intrigue, c'est-à-dire du côté romanesque, après, moi, personnellement, et je pense que c'est pareil pour tous les auteurs, on a deux plaisirs supplémentaires. Le plaisir de l'écriture. C'est-à-dire le plaisir. J'ai l'habitude de dire que il y a deux plaisirs immédiats. Il y en a un qui est altruiste et l'autre qui est égoïste. Le plaisir altruiste, c'est de partager une intrigue avec le lecteur. Ça, c'est complètement altruiste. Et à aucun moment, on ne perd de vue qu'on a un lecteur et on veut partager ça avec lui. Après, on a un plaisir tout à fait égoïste. C'est-à-dire c'est de réussir des belles phrases et de réussir une belle écriture. Et là, on le fait pour nous. Et ensuite, il y a une sorte de plaisir intermédiaire qui est dans cette intrigue qu'on partage avec ce style qu'on se cherche pour nous-mêmes, de faire passer deux, trois petites réflexions qui nous tiennent à cœur et là, on est dans le partage proposé. C'est-à-dire que, oui, je glisse dedans tout ce que je dis sur la culture chamanique, sur les traditions, ce sont des choses dont j'ai été témoin et que j'ai vécu. Mais de temps en temps, je donne mon opinion sur la façon de gérer le temps, la façon de gérer l'amitié, l'amour, la mort, etc., qui sont à ce moment-là mon point de vue personnel. Mais dans le roman, ce qui me plaît, c'est que ça passe sans être une déclaration d'intention. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'essai, on n'est pas dans le... même dans la blanche, quelquefois, cette déclaration d'intention, c'est le thème du bouquin, et les 250 pages servent à prouver ça. Voilà. Dans le roman, on est un peu ailleurs. On peut le glisser, comme vous dites, par deux, trois petites phrases dispersées par-ci, par-là, et qui sont, dans ce cas-là, effectivement, le vrai plaisir d'écrire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a conjugué le partage avec le lecteur pour l'intrigue, le plaisir égoïste d'écrire au sens de la phrase, de ciseler des phrases, et d'ailleurs, moi, ce sont les seules choses sur lesquelles je ne cède pas quand il y a des épreuves de correction, puisque les épreuves de correction nous reviennent avec, dans la marge, les remarques de l'éditeur, ou de notre éditrice, ou du correcteur, et donc, ce sont des corrections qui sont proposées. Donc moi, mon principe est simple, j'accepte toutes les corrections grammaticales et de syntaxe et de typographie. Et puis après, on a en marge des corrections qui sont des corrections de style. Et là, j'ai une réponse qui est claire, j'appelle ça coquetterie d'auteur. Ça, je garde, c'est ma coquetterie d'auteur, je garde. Je me souviens de deux phrases, une qui est à la première page de Yarrow Lager, où je parle de la houle irisée du vent, pour parler de la steppe. Et la personne qui corrige, le correcteur, je pense d'ailleurs, c'est plus qu'un éditeur, m'a dit, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que la houle, c'est pas le vent. La houle, c'est la mer, et donc ce serait l'herbe qui ferait la houle. Et je m'en fous, coquetterie d'auteur. Moi, la houle irisée du vent, l'allitération me plaît, et c'est l'image que j'ai dans la tête, donc ça, je ne cède pas. Ça, c'est le plaisir vraiment égoïste d'écrire. Arriver à quelquefois, ça arrive, c'est pas toutes les pages, hein, c'est... S'il y a 10 phrases comme ça sur lesquelles on ne cède pas dans un bouquin, c'est déjà bien. Et après, effectivement, il y a de glisser des réflexions sur notre approche de la vie. Moi, j'ai cette culture de la paresse que j'ai, ou de la nonchalance, ou même des fois d'une certaine façon d'accepter les choses sans trop lutter, de céder pied. C'est l'idée que il faut résister à la tentation pour pouvoir y céder un jour. C'est très présent dans mes bouquins, même si je ne le dis pas. Résister, parce qu'on sait qu'on va céder, et que quand on cède, c'est encore bien meilleur, que si on résistait toujours. Donc voilà, donc effectivement, il y a ces trois plaisirs-là qui sont conjugués dans l'écriture, pour moi.
Et au-delà de l'épisode que vous avez relaté avec votre petite fille, vous n'étiez pas trop sûr du filtre de la fiction pour être impudique à ce point, justement, de donner des sentiments profonds pour faire confiance à la fiction. Ça a mis tout ce temps, je veux dire.
C'est pas quelque chose d'impudique, c'est que... si, peut-être d'ailleurs, c'est impudique. C'est que je pense que la formule de l'essai, où à la première personne, un auteur, pas un auteur, mais une personne, parce que dans ce cas-là, l'auteur, c'est la personne, utilise 200 pages pour expliquer quelque chose qui lui est très personnel. Oui, il y a peut-être une tendance à quelque chose d'impudique, effectivement, qui ne se pose pas dans le roman, parce que dans le roman, on se cache derrière les personnages. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir aborder des sujets qu'on ne pourrait pas aborder. Et là, je rejoins aussi un autre problème, qui est de délocaliser notre action dans des pays différents. Par exemple, dans le premier bouquin, quand je parle de ce petit groupuscule nazi, qui existe véritablement à Ulaanbaatar, où il y a véritablement un bar nazi avec les serveurs qui sont habillés en Waffen-SS et les drapeaux allemands au mur, etc., si j'avais écrit une fiction, on va dire franco-française, qui se passe en France, ce que je dis, quand je dis par exemple que ces nazis-là sont des nazis d'opérette, parce qu'ils ont choisi en tant qu'ultranationalistes un décorum, mais ils n'ont pas l'idéologie derrière. Ils n'ont pas une idéologie qui s'appuie sur des lectures, sur une philosophie, ce qui est beaucoup plus dangereux. C'est juste une bande d'imbéciles qui a vu que dans des bouquins d'histoire, il y avait un mec qui avait résisté à lui tout seul contre toute l'Europe et qui se dit, bah, nous, les Mongols, on est pareil. Ils sont une centaine, ils sont absolument incultes, ils sont idiots, ils sont imbéciles, et ils sont nazis, néo-nazis. Bon. Dans un bouquin dont l'action se passerait en France ou en Europe, même romanesque, si j'avais abordé ce sujet-là comme ça, j'aurais été immédiatement catalogué d'un côté ou de l'autre.
Ah oui,
ou pro ou anti. Hein. Dans un roman qui se passe loin, j'ai ce décalage où je peux dire, par exemple, je peux faire dire à un de mes héros, un des héros, je crois que c'est Solongo, je crois, qui s'indigne auprès du Yarrow Lager en disant, mais parce qu'elle voit, Yarrow Lager l'emmène à l'Alliance française, et elle voit des livres sur la Shoah, etc. Et quand elle voit ça, elle dit, mais comment est-ce que ces connards peuvent être nazis, etc. Et je peux faire dire à Yarrow Lager, il faut pas trop leur en vouloir. C'était pas leur guerre, c'était pas leur mort, c'était pas leur massacre. Ça se passait au bout du monde, pour eux. Et pendant ce temps, il se passait chez nous des choses aussi terribles que personne en Europe, mais personne ne pouvait imaginer, et dont tout le monde se foutait, parce que non seulement il ne pouvait pas l'imaginer, mais il ne savait même pas qu'on existait. C'est-à-dire que l'Europe des années 30, 40, 40, 50, personne ne connaît rien de la Mongolie. Ils ont eu des régimes terribles. Ils ont eu un espèce de fou fêlé qui s'est déclaré lui-même empereur de Mongolie pendant un an, même pas, et qui brûlait dans les locomotives les prisonniers politiques pour faire avancer les trains. Donc, ils ont eu les mêmes horreurs. Mais je peux me permettre de le dire dans un bouquin qui se passe en Mongolie, parce que j'ai le recul nécessaire, et je peux faire avancer l'argumentation par deux ou trois personnages différents. Alors, si j'écris un essai ou si j'écris un roman monothématique situé en France sur ce thème-là, je ne peux même pas aborder le sujet. D'une façon ou d'une autre, je serais catalogué par. Donc voilà ce qu'apporte, un, le style romanesque, et deux, cette sorte de délocalisation de l'histoire.
Et pour vous, Fabrice, c'est aussi ce plaisir d'être dans la pays de fiction où vous pouvez tout faire passer un peu filtre de.
Oui, bien sûr, mais encore une fois, moi je suis en plein, effectivement.
D'accord.
Oui, c'est effectivement, mais je crois que c'est ce qui nous réunit tous. Et si on écrit des romans basés sur la fiction, sur l'imaginaire, même si c'est un imaginaire plus ou moins qui nous emmène plus ou moins loin, c'est effectivement cette liberté qu'on a de pouvoir. Moi, les vies par procuration ou les fantasmes de vie par procuration qu'on peut vivre à travers les romans qu'on écrit, c'est fabuleux. Moi, je rebondis juste que sur ce que disait Yann par rapport au plaisir d'écrire, au plaisir de lecture. Je suis quelqu'un, par exemple, qui souvent quand je et ça c'est un plaisir énorme et qui nous donne une satisfaction dingue par rapport au temps qu'a coûté l'écriture d'un bouquin, c'est que souvent quand j'écris un épisode qui est censé avoir un écho qui est censé être l'écho de quelque chose qui s'est produit dans un bouquin précédent, je vais replonger dans le bouquin précédent pour voir le chapitre en question, et souvent je lis une phrase, un paragraphe, une page, deux pages, trois pages, et je relis le chapitre. et en ayant là pour le coup la distanciation du fait que ça soit moi qui l'ai écrit. Moi je me souviens que le premier roman que j'ai écrit, c'était avant tout parce que j'avais envie d'écrire le bouquin qu'en tant que lecteur, j'aurais eu envie de lire, de vivre, j'avais failli dire. Donc, y avait vraiment ça. Et à chacun de mes bouquins, c'est vrai que ça me prend pas mal de temps, je mets pas mal d'efforts. Alors, c'est pas une écriture, j'ai pas l'écriture forcément très plaisante, parce que je suis quelqu'un, bon, c'est un peu fastidieux, moi j'aimerais être paresseux par rapport à ça, j'admire. Mais alors, par contre, le plaisir de lecture que j'ai en relisant un livre, ça paraît un manque d'humilité dingue. Et pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire énormément de plaisir. Et donc, il n'y a aucun des bouquins, par exemple, où je me dirais, tiens, là, je réécrirais ça. Non, c'est vraiment, je me suis fait chier à l'écrire, mais putain, là, je pense avoir fait le bouquin qu'à ce moment-là, j'avais envie d'écrire, j'avais besoin d'écrire. Alors après, je ne sais pas, il y aura peut-être quelques trucs à modifier. Mais pas grand-chose, quoi. Et ce plaisir-là est un plaisir, par contre, que peu de choses dans la vie donne, en réalité. C'est-à-dire ce plaisir de créer et en même temps de pouvoir regarder cet objet créé, de se dire, putain, c'est moi qui l'ai fait. Je suis content de moi et j'ai plaisir à le relire. Voilà. Ça, c'est une jouissance assez importante.
À ce propos, moi, je suis donc très bordélique et si je n'ai publié que depuis 2 ans, j'ai toujours écrit des trucs qui étaient en vrac, dans des tiroirs, dans des placards, etc. Mmh. Et il se passe quelque chose qui correspond exactement à ce que tu viens de dire, c'est que quelquefois, je retrouve des vieux manuscrits, je lis une phrase et je la corrige. Je me dis,
laissez traîner ça.
C'est Et puis, une semaine plus tard, ou 10 jours plus tard, je tombe sur une version ultérieure du même manuscrit, et quelquefois c'est quelque chose que j'ai écrit 20 ans plus tôt, et j'ai la même correction dessus.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'à partir de la même phrase, j'ai la même correction. Et donc, ça veut dire qu'on a effectivement ça, on a cette chose de vouloir faire aboutir. Et je vais être aussi prétentieux, j'ai eu beaucoup de compliments sur ces bouquins, ils ont été énormément primés, etc. Mais les meilleurs compliments que j'ai eus qui me touchent, c'est par exemple, on était au Canada et il y a une personne qui vit au Québec et qui m'a dit, pour la première fois, bien que je vive au Canada depuis toujours, quelqu'un m'a, j'ai lu quelque chose, exactement ce que je ressentais depuis mon enfance, quand je marche dans la neige. À aucun moment, j'ai réussi à mettre des mots dessus. Et elle m'a cité un passage du deuxième, où je parle du crissement meringué de la neige. Elle me dit, le crissement meringué de la neige, elle me dit, je sais, comment vous arrivez-vous qui vivez à Paris à tomber là-dessus? Et c'est exactement ça, le vrai plaisir égoïste d'écrire. C'est quand on arrive sur ce truc comme ça, on se dit, c'est pile poil ça, quoi. Et
encore heureux qu'il n'y ait pas eu un correcteur qui vous dise il n'y a pas de meringue sur la neige.
Oui, mais c'est fort possible qu'on aurait pu me dire ça. Absolument. Ouais.
Cela dit, moi aussi, j'ai des. Voilà, les correcteurs font un boulot extraordinaire. Oui. Moi, j'avais un épisode, quand même, moi aussi, hein, où j'avais une course-poursuite. Dans le deuxième bouquin qui s'appelle Les Portes du Sommeil, j'avais une course-poursuite. Mon héros était censé aller sauver la vie d'André Breton, qui habitait rue Blanche. Donc, il prend un taxi, tac-tac-tac-tac, course-poursuite. Et à un moment, je lui fais passer sur le boulevard, et il y a Place Blanche, on tourne, on prend la rue Fontaine. Et dans la main, j'ai une annotation du correcteur. Mais la rue Fontaine est à sens unique, elle ne se prend pas. Elle ne se prend pas par la rue bleue, par la rue Blanche. Et là, ça m'a effectivement assez décontenancé. Et là, je me suis dit, voilà, coquetterie d'auteur, allez, bon, je suis le maître, je décide. Et après tout, c'est une course-poursuite, je décide. Hein. Ouais. Et puis, je me dis, mais c'est bizarre, parce que bon, je vais voir. Et là, je tombe sur une photo par Internet, voilà, c'est là où c'est pratique, où je tombe d'une photo prise de la Place Blanche, la rue Fontaine. Il y a une voiture qui descend et une charrette qui remonte.
Bonheur.
Je l'ai mailé à la correctrice en disant, voilà, non, je refuse la correction, mais c'est pas une coquetterie, c'était la vérité à l'époque. Et après, on m'a dit effectivement que les sens uniques ne sont arrivés qu'après la guerre et qu'en 1934, à l'époque, donc, il n'y avait pas de sens unique. Voilà. Mais c'est déstabilisant parce qu'on a le truc de création, de toute façon, c'est comme ça. Et puis c'est le souffle qui réclame ça. Et puis tout d'un coup, un avis formel d'un
correcteur. Finalement, ça aurait été plus simple d'aller sur place. Ce que je disais.
Non, parce que c'est
à double sens. Voyager dans le temps.
C'est aujourd'hui à sens unique, et si j'avais été sur place.
Non, mais avec bien sûr une machine temporelle.
Ah oui, la machine temporelle, on s'invente.
Hein, c'est nous. Et vous, Sonia, le plaisir, il est où dans tout ça? Dans l'écriture?
Je rejoins bien Yann là-dessus. Oui, il y a trois formes en fait de plaisir. Je suis un peu plus dans le partage, peut-être. Voilà, parce que ce dont tu parles, cette phrase qui est pile poil, je pense bien sûr à ma satisfaction, mais je me dis, je pense plus au lecteur.
Oui, mais si ne voulait rien dire pour le lecteur, ça ne verra rien. Mais cette conjonction en disant, voilà, c'est pile poil la façon dont je voulais le dire et j'ai réussi à le dire. Et on se dit, ça va être pile poil ce que le lecteur va. Et le lecteur va arriver à comprendre exactement ce que je voulais dire. C'est pas toutes les phrases, hein,
quelques phrases. Hein. Mais c'est vrai que. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les apprécier. Mais ce qui est vertigineux pour moi, c'est de donner le plaisir au lecteur que j'ai eu moi-même en tant que lectrice. Je suis toujours lectrice, bien entendu, mais je l'étais beaucoup plus avant et depuis toute petite, puisque j'ai su lire dès l'âge de 5 ans. Je lisais des lectures qui correspondaient quand même à mon âge, mais très vite, je suis passée quand même à... Et voilà, et donc ce plaisir qui, pour moi, m'accompagnait, mais tout le temps dans la maladie aussi, puisqu'on a eu la télé très tard... Et quand j'étais arrêtée, pas d'école, la lecture, et c'était le bonheur pour moi. Donc je me dis, maintenant, si je peux donner le même plaisir au lecteur, l'évasion, la réflexion, tout, c'est... Voilà, pour moi. Enfin, il n'y a pas mieux.
Mais au moment de l'écriture, vous en tenez compte, ou bien pas du lecteur?
Je vais pas non plus dire bon voilà le lecteur qu'aurait-il aimé là et là. J'écris pas non plus pour mon éditeur, même si il émet des souhaits par exemple quant au personnage.
Je parlais de violence, restreindre un petit peu, vous auto-censurer ou des choses comme ça.
Oui, bien sûr, parfois, mais en général, quand même, je laisse libre cours. Et après, de toute façon, on n'est pas forcément auto-censuré, mais on est quand même recadré par les corrections de l'éditeur. Et moi, je suis assez... Je tiens bon sur certaines choses, en fait, qui sont plus de l'ordre du contenu. On deal, à ce moment-là, on négocie. Mais je suis assez souple. Parce que j'ai entière confiance en l'éditrice avec laquelle je travaille.
Donc pas de neige.
Elle
de
a ringuée. Plus d'expérience. En Afrique, oui, c'est un peu difficile. Mais dans le prochain, en revanche, là, c'est moins 37, donc il va y avoir de la glace et de la neige. D'ailleurs, l'écrire par la période de canicule là, qui est passée, c'était assez marrant.
Travail de l'imagination.
Voilà, justement.
Ben voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être, parce qu'on doit devoir clore.
Ben
non.
Donc... Vous êtes très complet, on a tout dit.
Juste une question, moi je suis assez carré, j'ai besoin de vérifier le terme. À un moment du livre, vous dites le berceau et le cercueil,
oui. Oui, c'est le même mot. C'est le même mot. Il y a un mot qui veut dire à la fois le berceau et le cercueil en mongol. Ne me demandez pas le mot, je serais incapable de vous le dire, mais le même mot existe pour...
Je trouvais très intéressant.
Oui, c'est une très belle... C'est très typique de la notion chamanique du cycle. C'est-à-dire que on est sur la même circonférence et quel que soit le point auquel on se trouve, on est sur le même trajet. Donc oui, effectivement, il y a cercueil et berceau, c'est le même mot.
Et comme cette coutume de laisser le corps tomber, on le traîne à cheval et puis il tombe là où il doit tomber.
C'est un des thèmes du troisième, cette notion de la mort. Et il y a une différence fondamentale entre les cultures chamaniques et nous, c'est que nous, on est dans l'Occident, en général, et dans la force de souvenir. C'est-à-dire que on embaume nos morts à un point tel que l'Allemagne, en ce moment, qui a des concessions beaucoup plus courtes pour les cimetières, a un problème parce que les corps ne se décomposent plus assez vite et ils ne peuvent plus vider les cimetières. Ils sont tellement bourrés de tout ce qu'il faut pour les embaumer. Et nous, on est dans ce culte-là du souvenir. On met des stèles avec des photos. Maintenant, on met des puces vidéo. Et la culture chamanique, c'est exactement dans le contraire. C'est-à-dire que l'enterrement classique dans une culture chamanique, c'est de laisser le corps dans la nature avec seulement une pierre pour le marquer. Et surtout, on oublie d'attendre qu'il ait disparu et qu'on l'oublie. Et dans ce cas, on n'est plus dans le culte du souvenir. On est dans le culte de l'oubli. On oublie tout de la personne, tout du lieu, tout de l'endroit, et on ne garde que son esprit qui, normalement, habite le feutre de la yourte. C'est vraiment une différence fondamentale, et c'est un des thèmes du troisième.
Très bien. Je vous remercie tous, et puis continuez vos promenades.